Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Gérard Bardy. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Bardy, vous êtes journaliste, écrivain, vous avez été rédacteur en chef de plusieurs magazines, on ne va pas tous les citer, vous avez travaillé pour l'agence France Presse, pour Valeurs Actuelles, pour Le Monde, vous avez fait l'Institut des Hautes Études de la Défense Nationale, vous êtes membre. Si je le dis, c'est, je ne l'aurais pas dit là, comme ça dans votre CV, mais je le dis pour, parce que c'est un peu en cohérence avec le sujet que l'on va évoquer, évidemment. Et vous êtes connu dans la profession, Gérard Bardy, pour être en quelque sorte le journaliste le plus gaulliste qui soit encore, qui est un grand... défenseur de la mémoire du général de Gaulle. Et cette introduction n'est pas innocente. Vous avez publié aussi un livre qui s'appelait « De Gaulle avait raison, le visionnaire ». Alors c'est toujours un exercice délicat, un exercice qui n'est pas apprécié de dire, de faire parler ceux qui ne sont plus là. Mais il y a quand même une des cohérences, des courbes que l'on peut définir. Voilà.
Mais vous savez, dans De Gaulle avait raison, le visionnaire, je n'ai fait que reprendre des citations exactes du général de Gaulle, ou dans ses discours ou dans ses écrits, et donc ce n'est pas une extrapolation, c'est la mise en perspective de ce qu'il disait, de ce qu'il prévoyait, souvent très justement, avec la réalité du monde d'aujourd'hui.
Alors justement... dans cette réalité du monde d'aujourd'hui, comment voyez-vous, vous à titre personnel, ce qui se passe en ce moment, donc cette guerre, et comment, à travers ses écrits, sa réflexion, peut-on penser qu'il y a une forte probabilité de réaction du général de Gaulle ? Quel commentaire aurait-il fait ?
Eh bien, c'est difficile de dire ce que penserait ou ce qu'aurait fait le général de Gaulle, puisque
c'est
le gaullisme.
C'est pour ça que vous avez vu, j'ai mis plein de précautions.
Bien sûr, parce que le gaullisme, c'est pas une doctrine, c'est un pragmatisme, c'est une pensée forte adaptée aux réalités du temps. Ce que l'on peut dire quand même, sans risque de se tromper, c'est qu'on n'en serait sans doute pas arrivé là. Parce que la France de Gaulle n'aurait pas suivi l'OTAN dans ses pérégrinations en poussant ses pions toujours plus à l'Est, et que le général de Gaulle, ça c'est le premier point, le deuxième point, le général de Gaulle aurait gardé avec Poutine des relations franches, directes, vives peut-être parfois, mais en tout cas régulières et assez cordiales. C'est en pensant au peuple russe qu'il aurait eu, et à l'histoire de la Russie qu'il aurait eu cette attitude, beaucoup plus qu'avec l'homme Poutine lui-même. Le pragmatisme de De Gaulle, c'était d'être engagé ni dans un camp ni dans l'autre, et d'être l'homme se tenant suffisamment loin des coups bas, et ayant une vision, ayant une autorité qui aurait permis à la France aujourd'hui de jouer un vrai rôle. On voit bien, même si la communication tam-tam va nous dire le contraire, que le président Macron n'aura pas pesé, en tout cas jusqu'à maintenant, très lourd dans cette terrible affaire. On voit comment Poutine l'a reçu, on voit comment il ne l'écoute pas, on voit comment Poutine a mandaté le premier ministre israélien pour aller voir le grand européen, c'est-à-dire le chancelier allemand, c'est terrible de dire ça, et non pas le président en exercice
de l'Europe.
Donc tout ça montre bien que notre diplomatie a flanché, qu'elle a en tout cas terriblement évolué, et que au moment de l'effondrement du bloc soviétique, on aurait dû raisonnablement demander à l'OTAN de ne pas pousser ses pions aussi loin. Or, non seulement on ne l'a pas demandé, mais on a suivi. Aujourd'hui, c'est très simple pour le président américain, parce que bon, l'OTAN et les États-Unis, c'est la même chose. Hein. C'est l'OTAN est un outil directement dans la main de Washington. On voit comment le président Biden, vous savez, il ne faut pas dire de mal de Biden en France. Hein. Il fallait massacrer Trump, mais sacraliser Biden. On voit comment ce pauvre homme qui commence quand même à souffrir des limites de l'âge, tient des propos guerriers de l'autre côté de l'Atlantique, une sorte de va-t-en-guerre comme ça, sans toutefois, Dieu merci pour. Souhaitons que ça dure sans mobiliser des militaires. Mais enfin, il joue les va-t-en-guerre avec les moyens nouveaux de la guerre, c'est-à-dire la finance et la communication. Il menace Poutine, il le nargue, mais qui est entre les deux, ce sont les Européens. Et qui risque de subir les coups les plus sévères, ce sont les Européens. Donc, je pense que le général de Gaulle aurait eu l'autorité pour empêcher l'OTAN de narguer Poutine, qui est quand même un gros ours mal léché, pas un grand démocrate. Il faut éviter quand même d'aller lui chatouiller la plante des pieds. Bon, ça, de Gaulle aurait su faire. Et puis, dans la situation présente, je pense que bien sûr, il se serait imposé comme l'interlocuteur, entre les deux camps.
Cette désignation du Premier ministre israélien est-elle aussi symbolique et très importante? Je me souviens, il y a 8-9 ans à peu près, un quart des députés de la Knesset ont mis en garde l'Europe contre tout rapprochement avec l'Ukraine en employant ce terme qui est considéré aujourd'hui comme fou, complotiste, il déraille, mais ce terme de dénazification de l'Ukraine.
Et bien sûr, vous savez, les autorités politiques françaises, dans leur presque majorité, dans presque totalité, en tout cas dans leur grande majorité, sont dans une incohérence totale, suivies par le peuple tellement manipulé par les médias qui intoxiquent l'opinion. Comme on l'a quand même rarement vu, on franchit quand même là des étapes. Hein. C'est certain que la mise en garde existait depuis des années. Et c'est vrai aussi que ce bon président ukrainien, dont on fait une star, un modèle de courage, je ne nie pas son courage, mais c'est un courage qu'il puise dans son pouce au crime, car tous les jours il appelle l'Europe à s'engager. Il nous conduit droit à l'affrontement direct, c'est par son attitude. Mais surtout, c'est un pouvoir qui a été installé dans des conditions assez peu démocratiques et avec le recours à des milices néo-nazies. Tout le monde le sait. Toutes les chancelleries, toutes les ambassades installées en Ukraine ont fait des rapports complets. Je sais que l'ambassadeur de France à Vienne avait été celui qui avait fait la synthèse la plus complète remise au Quai d'Orsay, pour dire que ce gouvernement, ce pouvoir ukrainien était extrêmement suspect, avait été élu dans les pires conditions. Ça, c'est une première chose. Et puis, quand même, depuis 2014, ce régime ukrainien a quand même provoqué dans le Donbass et dans les provinces russophones, selon les estimations, entre 12, 13, 14 000 morts. Et là, ça n'a effrayé personne, tout le monde s'en foutait complètement. Et alors, bien évidemment, ça n'excuse pas Poutine, qui n'aurait pas dû aller jusqu'à l'affrontement direct, l'affrontement guerrier. Je crois que sa responsabilité, elle est totale, il faut pas chipoter sur les mots. Mais il faut aussi comprendre les origines de la guerre. La responsabilité de Poutine dans le déclenchement de ce qu'il faut bien appeler une guerre, n'empêche pas, bien au contraire, de se pencher sur l'histoire récente et de voir comment on en est arrivé là. Et encore une fois, c'est pas pour donner quitus à Poutine, c'est simplement pour dire que les responsabilités sont amplement partagées.
Comment expliquez-vous, là, maintenant, c'est peut-être aussi aux sociologues, parce que quiconque a été journaliste pendant des décennies est un peu sociologue aussi, tellement on a appris à analyser ce que pensent les gens, l'évolution de la société. Comment analysez-vous le fait qu'au bout de nos 10 minutes, là, de conversation, je suis certain qu'il y a des auditeurs qui se disent le salaud, il oublie, et il est donc du côté de Hitler,
De Poutine.
voilà, du
Hein?
nouvel Hitler, et le salaud, il pense pas à ces pauvres gens, ces pauvres femmes, enfants, voilà. Et tout est
Mais bien sûr,
caricaturé en noir et blanc. Noir et blanc. Ou blanc,
sûr,
noir ou blanc.
Ou tout est noir ou tout est blanc. Bien évidemment que ces victimes de la guerre, c'est pathétique. Et quand on voit ces femmes, ces gosses qui...
Personne ne s'en réjouit.
Mais je ferai remarquer à ceux qui m'accuseraient à tort d'être pro-Poutine, car c'est vraiment pas le cas. Moi, je travaille en historien. Je réfléchis en historien. Je ne vois pas le déclenchement des hostilités par Poutine. Je vois les 10 années qui ont précédé, et ça change vraiment tout. Eh bien, aujourd'hui, on est dans une civilisation, une société de l'émotion. Je vous ferai remarquer que depuis 3 générations, nous n'avons pas vu de guerre sur notre Europe proche. Il y a eu quelques guerres intérieures à l'Europe, comme le Kosovo, etc.
Mais, oui, j'allais dire.
Bon, pas de même ampleur. Bon, depuis 2 générations, on voit plus de morts à la maison. Donc la mort nous est devenue étrangère. Nos proches, nos parents, nos grands-parents meurent à l'hôpital ou à l'EHPAD, et puis on est plus confronté à l'image de la mort, ou très peu souvent.
Et même quand il y a un virus, certes dangereux, qui arrive, mais pas trop mortel. Je dis pas trop mortel, voilà. Avec toutes les précautions, tout le monde se cache sous la table.
Bien sûr, bien sûr. Et la génération la plus jeune, puisque j'ai balayé les 3 générations, hein, 3 générations, il n'y a pas eu de guerre, 2 générations, on n'a plus vu de morts concrets, physiques, et la dernière génération, elle n'a vu que la guerre et les morts sur son iPhone. Ce sont des mômes qui passent leur temps à jouer à la guerre sur leur écran et sur leur tablette. Donc, à partir du moment où on voit des vrais victimes de la guerre, des vrais morts, des vrais enfants effrayés qui pleurent. Mais c'est normal que nous soyons effrayés. C'est normal que ça nous soit insupportable. Déjà, la guerre est insupportable. Et en plus, nous n'avons plus cette culture du conflit, d'un monde dangereux que nous avions dans les générations précédentes, puisque nos grands-parents avaient fait 14-18, nos parents avaient fait 39-45, etc. Donc, tout a changé. On est dans un contexte nouveau, et c'est ce contexte, cette société de l'émotion qui permet la manipulation. Car avec quelques images, on fait oublier aux gens, aux citoyens, les réalités du conflit. Évidemment, vu comme ça, Poutine est le dernier des salauds parce qu'il fait fuir des enfants sous les bombes. D'accord, on est d'accord. Mais pour aller un petit peu en amont et voir comment tout ça s'est enclenché, nous en sommes incapables. Il y a une sorte de d'émotion qui ajoutée parfois à de l'acculturation, car les programmes scolaires n'ont quand même pas beaucoup insisté sur l'histoire contemporaine, sur l'histoire déjà d'une façon générale. Donc on manque de moyens pour réfléchir, et on porte trop sur l'émotion. Ce qui ne retire rien, encore une fois, au drame de ces braves gens, qu'il faut aider, que ce soit...
Ils y sont pour rien.
Bien sûr, que ce soit en Pologne, que ce soit... et d'ailleurs, entre parenthèses, si nous pleurons sur eux, nous avons raison, mais il faudrait aussi pleurer sur les populations massacrées depuis 8 ans dans le Donbass, etc. Car encore une fois, plus de 10 000 morts ont été faits sans que ça émeuve quiconque.
Je prends souvent cette image... Gérard Bardi, qui est celle d'une cour de récréation. Vous êtes le surveillant Gérard Bardi, il y a 2 gamins qui se chamaillent dans la cour de récréation, un qui tape l'autre. Vous allez voir Pierre, vous dites « Pourquoi tu as tapé Paul, Pierre ?» Pierre vous répond « Parce que Paul, hier, il m'a frappé. » Voilà. Et Paul dit « Pourquoi tu l'as frappé, hier ?» Parce que Pierre, avant-hier, il a été pas très gentil avec ma sœur, ou peu importe. « Ah bon, pourquoi tu as été pas très gentil avec sa sœur ?» Parce que avant-hier, il m'a volé de tel jouet ou voilà.
Bien sûr, on
remonte le temps, à la fin on comprend plus rien,
quoi. Bien sûr,
c'est
d'autant
un peu
plus
ça.
Que
on comprend plus
d'autant
rien.
Plus que géographiquement et historiquement, ce conflit russe-Ukraine est assez imbriqué. La Russie est née en Ukraine, enfin au 9e siècle l'Ukraine était russe actuellement, et puis après vous avez toutes ces découpages qui sont issus des guerres. Vous avez ensuite le tremblement de l'URSS et de l'effondrement de l'URSS. Et puis vous avez ces populations russophones qui ont été séparées de la Russie, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué et que on a tendance à oublier toute cette complexité que l'on connaît mal et pour ne voir que eh bien, ce qui est le plus direct, ce qui est le plus touchant, ce qui est le plus révoltant, eh bien, c'est l'image de la guerre, de la souffrance, de la mort. Alors, il faut respecter nos auditeurs qui ont cette approche, qui sont
Sincère.
bouleversés. C'est évident, nous-mêmes, moi j'étais reporter de guerre, vous croyez que quand on est soi-même père de famille et qu'on arrive sur un théâtre d'opération, sur un théâtre de guerre, vous croyez que ça nous fait rigoler, nous les reporters, de voir des mômes qui ont perdu un bras et qui courent désespérés dans la brousse? Vous croyez vraiment... Enfin, il faut pas être stupide. Ça m'est arrivé combien de fois d'être bouleversé et même de me tourner pour pleurer seul avant de dicter mon reportage. Ça, c'est la réalité. Sauf que ça, on ne peut pas se limiter à l'émotion. Et on ne peut pas. Ou alors, on passe à côté de la vérité.
On peut comprendre le temps d'émotion, mais après, on ne peut pas ne pas comprendre. Il y a quand même un temps de recul. Comment se fait-il que ce temps d'émotion, qui ne s'arrête pas, là, il semble perpétuel, là, ça ne s'arrête plus, efface toute donnée subjective du problème et tout débat? Et je retrouve un peu ce qui s'est passé à l'époque du débat sur le pass sanitaire, sur le confinement, sur la
Ah
vaccination.
ben
Dire si vous osiez dire le confinement, c'est peut-être pas une bonne idée, on vous répondait, c'est que vous vouliez que les gens meurent, quoi. Voilà, c'est à peu près ça.
oui. Ben, le fait d'avoir ces médias et ces réseaux sociaux, tout ça en direct, quatre chaînes de télé d'information en direct. Tout le monde a son est sur WhatsApp, est sur Facebook, est sur Twitter, etc. Donc, les images nuit et jour en continu nous arrivent par flot et nous montrent les pires horreurs. Comment voulez-vous que nous ne soyons pas bouleversés? Comment que notre psychisme résiste? Nous sortons déjà de 2 années de pandémie. Où notre système nerveux a quand même été mis à mal, où on a collé à la population une trouille monumentale en la privant de certaines libertés. Bon, on va pas dire ici si c'était justifié, tout justifié, un peu justifié, mais enfin, quand même, le traumatisme, il est encore en nous. Et puis, sans transition, on passe à ce traumatisme supérieur qui est celui d'une guerre. Et on balade à la télévision sans aucune précaution le terme de menace nucléaire. Comment voulez-vous dormir? La menace nucléaire, Dieu merci, nous n'en sommes pas là. Bien évidemment qu'à partir du moment où vous avez la bombe, eh bien vous rappelez que vous l'avez. Ça, c'est une guerre des nerfs, c'est une guerre de communication. Ça accompagne tous les conflits armés depuis la création de l'arme nucléaire, hélas. Mais enfin, bon. Et donc, nous sommes conditionnés, nous sommes psychiquement fragilisés par cette succession de mauvaises nouvelles. Nous avons vécu pendant des décennies sans problème majeur, et puis tout d'un coup, une pandémie est suivie d'une guerre que l'on nous dit éminemment grave et à nos portes demain, et donc on craint, alors on tend le dos, on guette chaque image qui nous montre que ce que serait le drame non plus à nos portes, mais chez nous. Et donc, ça, je crois qu'il y a une réflexion à avoir sur le fonctionnement des médias, parce que il faut doser les informations. Je ne dis pas qu'il faut les cacher, je dis que faire tourner en
Ou
boucle,
les expliquer.
ou les, oui, remettre
En fait,
ces images en situation.
à l'époque, dans des temps très éloignés, maintenant, Gérard Bardi, du journal qui arrivait le matin, on vous explique, il y avait le gros titre, Vladimir Poutine déclare la guerre à l'Ukraine, va envahir l'Ukraine, il y avait les faits, et puis il y avait page 2, telle analyse, telle page 3, un rappel historique des faits, page 4, un historien qui écrivait pour dire l'affaire du Donbass, il y a eu des provocations, etc. dans les documents. Donc on lisait les 5-6 pages, on avait d'abord la photographie actuelle, et un peu comme une caméra, comme un drone, il monte dans le ciel, il prend du recul, et on vous donne la perspective, on vous donne... Et là, vous comprenez. Alors que maintenant, on n'a plus ce recul et cette perspective.
Mais j'ai déjà eu l'occasion, je crois, une précédente fois, de dire sur votre antenne que le grand défaut de la presse française, c'est de ne pas séparer les faits du commentaire, c'est-à-dire de tout mélanger. On ne fait pas, comme vous le disiez, d'un côté les faits, et les faits sont sacrés, et puis de l'autre côté le commentaire qui s'appesantit sur les causes de l'événement, qui peut même prendre parti, le commentaire est libre, et ça on ne le fait plus. Alors c'est encore accentué par les chaînes d'information en continu qui font beaucoup de mal à la cause de la vérité. Alors on va vous dire, ah oui, mais on nous fait voir des images, on a ça en direct. Oui, on a les images, mais remarquez que ces images, elles durent 2 minutes 50 et après elles tournent en boucle. De 2 minutes 50 en 2 minutes 50, on vous remet les mêmes images, les mêmes images terrifiantes, parce qu'on les choisit bien provocantes. Bon. Et puis après, c'est du commentaire, et parfois c'est du commentaire de gens qui sont là depuis des années, qui ne connaissent absolument rien au sujet, et je dirais plus que c'est du blabla que du commentaire. Alors heureusement, de loin en loin, il y a quelques experts. Je pense à Pierre Sergent sur France 2, je pense à des gens comme ça qui sont des vrais spécialistes et qui ont du recul et qui apportent de vrais éléments d'information qui permettent de relativiser. Encore faut-il se tenir suffisamment de temps et suffisamment intéressé par la compréhension de tous ces événements, quoi.
Et ça amène chacun aussi à être son propre juge, hein, de la bonne pensée ou de la mauvaise pensée. Donc,
Bien sûr,
sur les réseaux sociaux, on dit « je vais censurer tous ceux qui ne sont pas comme moi, tu n'es plus mon ami parce que tu es pour la guerre et tu veux massacrer ces pauvres familles ukrainiennes ».
Bien sûr.
Évidemment, moi, j'ai rien à dire. Là, c'est le...
J'ai un compte Facebook et pendant la pandémie, j'ai été censuré 2 fois. Et après 40 ans de journalisme, c'était la première fois où on me censurait un commentaire. Je n'avais jamais été censuré en 40 années de presse écrite, et je l'ai été 2 fois sur Facebook parce que j'avais juxtaposé des mots qui ont été repérés par les algorithmes, l'ordinateur. Et alors, il fallait pas mettre 2 mots comme ça parce que c'est interdit, ça peut appartenir à un vocabulaire dangereux, subversif, etc.
Eh ben, ça m'est arrivé pour une phrase. Moi, un jour, il y a quelqu'un a fait un commentaire et avec humour, j'ai pris cette phrase, j'ai dit « les Français sont des veaux ». Quoi. C'était pas méchant, c'était voilà.
Ça a déjà été dit d'ailleurs.
Voilà, et vous le savez mieux que moi. Et en plus... Là, j'ai été censuré pour Facebook pour dire « toute atteinte est raciste en employant des mots grossiers à l'égard d'une communauté ».
Ah ouais, ouais,
là,
j'étais
propos raciste, là, pour avoir dit « les Français sont des veaux ».
Voilà.
Est-ce que vous... J'aimerais finir... Ce qui se passe un peu, je fais aussi un parallèle avec la guerre du Golfe, hein, avec... C'était un peu la même chose sur l'Irak, quiconque... Oser dire que l'Irak était quand même pas totalement dans son tort, il y a eu quelques injustices et tout, on disait « sors de table, tu n'as rien à faire parce que tu défends Saddam Hussein ». Non, je défends pas Saddam Hussein, c'était un peu ça. Mais 10 ans plus tard, la vérité éclate toujours, 10 ou 15 ans plus tard. Maintenant, vous parlez de l'Irak, 99% des gens autour d'une table vont dire « Ah oui, c'est vrai, quelle honte ce qu'ils ont fait à l'Irak ». Et ce sont les mêmes qui disaient « C'est inacceptable, 10 ans plus tôt ». Ça change très vite, ça peut changer très vite.
Mais vous savez, quand Poutine nous dit, nous rappelle que nous avons bombardé Belgrade sans mandat des Nations Unies, quand nous sommes allés en Irak sans mandat des Nations Unies, etc., et que, eh bien, il a toute raison de craindre qu'un jour l'OTAN débarque en Ukraine et verrouille l'Ukraine sans mandat des États-Unis et des Nations Unies.
Parce qu'ils l'ont fait.
Est-ce qu'il a tort? C'est tout cela qu'il faut voir. Donc, en attendant, il faut quand même, et je crois que ça peut être notre conclusion, de souhaiter que des négociateurs de poids neutres, crédibles, interviennent vite pour que les deux parties en guerre se parlent, qu'il y ait un arbitre, un intermédiaire qui recouse les fils de la paix et que on n'aille pas plus loin dans cette escalade, parce que on sait comment on commence une guerre, on sait jamais comment on la finit.
Ben je suis optimiste, voilà.
Il faut être optimiste.
Gérard Bardy, vous avez été rédacteur en chef dans plusieurs grands magazines, notamment l'agence France Presse. Vous êtes écrivain aussi, vous avez aussi publié il y a quelques années, De Gaulle avait raison. Merci encore pour ce commentaire d'actualité, Gérard
Bardy. Au revoir, à bientôt.